Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le 3 novembre prochain, plus de 130 millions d'Américains sont appelés à se rendre aux urnes pour élire celui qui sera le 46e président des États-Unis. Cela se jouera entre Donald Trump, le républicain, et Joe Biden, le démocrate. À moins de 3 mois du scrutin, la story des Échos vous donne rendez-vous tous les vendredis pour suivre la campagne présidentielle aux États-Unis. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos en mode USA, avec la suite des aventures de Donald Trump.
We're in the heart of the Plaza District in Midtown Manhattan on the corner of 56 and 5th Avenue to give you an exclusive tour of one of New York's most iconic trophy buildings, 725 5th Avenue, Trump Tower. Let's take a look.
Depuis fin 2016, c'est une des attractions touristiques phares de New York, la Trump Tower, 58 étages de verre et de béton armé au cœur de New York, sur la 5e avenue, au croisement de la 56e rue. La tour, qui culmine à 200 mètres de hauteur, a ouvert ses portes le 30 novembre 1983. Elle abrite le siège de la Trump Organization, le conglomérat de la famille créé en 1923. Bonjour Pierre Demoux.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Échos. La Trump Tower, c'est le symbole de la toute-puissance de Donald Trump.
Oui, c'est vraiment le cœur de l'empire immobilier de Donald Trump, à la fois parce que c'est là où sont les bureaux de la Trump Organization, c'est là aussi il réside, c'est là où il y a son appartement, ce fameux triplex très luxueux tout au sommet de la tour dans lequel il a vécu avant d'aller à la Maison Blanche. Et puis c'est aussi l'immeuble qui symbolise le pouvoir immobilier de Trump, puisque c'est la tour la plus célèbre dans la ville où il a grandi et où il a fait l'essentiel de ses affaires, donc à New York, avec ce côté claquant, puisque c'est sur la 5e avenue, à côté de Central Park, donc une localisation symbolique et forte. Donc c'est vraiment le cœur de l'empire immobilier de Donald Trump.
Les New-Yorkais l'appellent la Maison Blanche de Manhattan, la Trump Tower, immeuble le plus improbable des États-Unis. Première surprise, le hall légendaire est ouvert au public.
Vous l'avez visité ? À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette tour ?
Alors, j'ai visité en tant que touriste avant l'élection de Donald Trump, comme beaucoup de gens à l'époque, et comme beaucoup de gens depuis d'ailleurs. C'est une tour noire avec une entrée dorée, et donc on entre par un portier qui vous ouvre la porte, dans une grande galerie avec des vitrines, du marbre, des dorures un petit peu partout, donc c'est un style très clinquant. Les portes d'ascenseur sont dorées également, l'escalator aussi. Tout au fond, on a une chute d'eau d'une vingtaine de mètres qui tombe vraiment à la verticale. Et tout autour de nous, quand on se balade dans le hall de cette Trump Tower, on a des magasins, des boutiques, des restaurants à la gloire de Trump qui vendent des produits Trump. Et puis, on a vraiment l'impression d'être dans un endroit très clinquant, avec le style bling-bling qui correspond un petit peu à l'image qu'on se fait du personnage, où il faut montrer qu'on a des moyens. Et donc, cet immeuble reflète un petit peu ça.
Oui, il reflète la réussite, hein, effectivement, de Donald Trump, devenu président il y a 4 ans. Et depuis, c'est véritablement devenu un corps tranché, la Trump Tower.
Oui, c'est un peu une forteresse maintenant, pour des raisons évidentes de sécurité, puisque c'est là où vit Donald Trump. Il y a des moyens de sécurité qui ont été déployés depuis son élection. On peut plus s'approcher aussi facilement qu'avant. D'ailleurs, les résidents s'en plaignent un petit peu, puisque c'est plus difficile pour eux de rentrer chez eux. Mais ça reste quand même un endroit très touristique, que ce soit principalement des fans de Trump ou des gens qui veulent, par curiosité, voir à quoi ressemble cette Trump Tower qui symbolise le pouvoir immobilier de Trump. Et puis, c'est aussi un lieu de protestation. C'est là où les gens de New York, notamment, viennent exprimer différentes revendications. Et notamment, début juillet, on a vu qu'il y a une peinture Black Lives Matter qui a été peinte sur le sol, enfin sur la rue, devant la Trump Tower, qui a été recouverte ensuite, mais voilà, c'est vraiment un lieu de passage ultra sécurisé aujourd'hui, mais qui reste quand même un endroit symboliquement fort.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague, et vous
croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Pour la pizza de Monsieur John McCain, alias Bruce Willis, il faut s'adresser à l'un des étages, qui se situe au-dessus de celui des bureaux de Donald Trump, situé au palier 26. Il a acquis par le passé l'un des 265 appartements de luxe de l'immeuble. Parmi ses voisins, il y aurait même Cristiano Ronaldo, quand il ne joue pas au foot. Mais c'est au sommet de la tour que Donald Trump a installé ses appartements, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 2.
3 étages, 800 mètres carrés, un palais au cœur de Manhattan, utilisé comme décor des émissions de télé-réalité qu'il animait.
Tout en dorure, en marbre, avec ses peintures Renaissance au plafond, ses colonnes de style corinthien, ça en impose. Du haut de la Trump Tower, Donald peut contempler New York à 360 degrés. Pierre, on le disait dans un précédent épisode de la story avec Véronique Le Billon, dès son arrivée dans le conglomérat familial, Trump a rêvé de faire fortune dans l'immobilier à Manhattan.
Assez vite, en fait, il a voulu se démarquer de ce qu'était la Trump Organization. Et donc, il a voulu aller à Manhattan pour aller dans l'immobilier de luxe, l'hôtellerie aussi. Pour lui, c'est là où se manifeste son pouvoir et la grandeur de la Trump Organization. C'était aussi une façon de couper les liens avec son père, qui, lui, ne voulait pas justement traverser l'East River. Il préférait se concentrer sur l'immobilier résidentiel dans le Queens et à Brooklyn. Et il voulait pas non plus faire de l'hôtellerie ni du luxe. C'est vraiment de la diversification entamée par Donald Trump. Et pour lui, ce passage à Manhattan, c'était le moment de s'exprimer par lui-même et de se faire un prénom au-delà du nom Trump qui était déjà porté par son père au sein de l'organisation.
En 1968, Trump, fraîchement diplômé, fait son entrée dans l'entreprise familiale. Il en deviendra président exécutif 3 ans plus tard à la place de son père. Mais il devra encore attendre 7 ans pour réaliser son premier deal d'ampleur.
Il avait déjà posé quelques pierres à droite à gauche à Manhattan, mais c'est cette année-là qu'il fait vraiment le premier deal qui le fait connaître au niveau national. Il rachète un ancien hôtel historique, le Commodore, qui est juste à côté de la gare de Grand Central. Il le rénove. D'ailleurs, très vite, on voit les particularités de Trump, puisqu'il fait afficher une immense bannière « Trump rénove cet immeuble ». Donc on voit que très vite, dès les années 70, il a cette envie d'afficher ce besoin de reconnaissance et que c'est son nom qui est vraiment la tête d'affiche. Et donc cet hôtel qui va être rénové en hôtel de luxe, il va s'associer avec la chaîne Hyatt pour en faire un hôtel de luxe. Et cette opération va très vite marcher en fait. Il va avoir des bons résultats et ça va un peu lancer la carrière de Trump, enfin en tout cas la faire décoller à New York et à Manhattan en particulier.
Et c'était la première pierre de son empire immobilier. Il y en aura d'autres, beaucoup d'autres ?
Il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre dans cette décennie des années 80. Et il va un peu jouer au Monopoly en fait autour de Central Park, qui va être un peu le cœur de son grand jeu immobilier. Il va racheter plusieurs tours, participer à plusieurs projets dans ces quartiers-là. Il y a la Trump Tower qui est, donc, comme on le disait, le symbole qui est inauguré en 1983. Et il va racheter le Plaza Hotel aussi, lui aussi sur la 5e Avenue, et qui a un immeuble avec une forte histoire. Donc, il va multiplier les projets, les chantiers, dans l'immobilier, mais pas que. Il va aussi participer à la rénovation de la patinoire Wallman, qui est dans Central Park, qui est un lieu symboliquement fort aussi, auquel les New Yorkais sont très attachés. Les travaux avaient un peu duré, c'était un petit peu compliqué comme rénovation. Et donc lui, il a repris en main ce chantier, il le termine en un temps record. Et donc ça participe aussi à l'image positive qu'il a auprès des New Yorkais à cette époque-là, en participant à voilà, tous ces projets qui se concrétisent pour la plupart.
On va dire qu'il va profiter aussi de la crise qui touche à ce moment-là New York, les États-Unis au début des années 80. Les prix de l'immobilier vont baisser, ça va l'aider ?
Ça va l'aider parce qu'il va pouvoir acheter. Et il va aussi bénéficier de la reprise du marché immobilier new-yorkais dans les années 80. Dans les années 70, la ville a frôlé la banqueroute, donc on était vraiment sur une situation compliquée. Donc Trump va bénéficier de ce regain du marché immobilier, mais il va aussi y participer lui-même par ses chantiers, par toutes les tours qu'il développe, tous les projets qu'il développe. Et il apporte aussi un style nouveau. Il bouscule un peu l'établissement des gros promoteurs immobiliers qui tiennent New York. Il y apporte un style un peu plus clinquant, beaucoup plus bling-bling, qui colle à l'époque en fait des années 80, tout ce luxe un peu ostentatoire, le Plaza Hotel, la Trump Tower, etc. Ce sont des projets qui collent à leur époque, qui sont aujourd'hui vus comme un peu plus ringards peut-être, si on peut dire. Mais en tout cas, à cette époque-là, dans les années 80, Donald Trump a l'image du jeune loup de l'immobilier qui réussit, qui dynamise le marché immobilier new-yorkais, et il en profite, et donc les prix augmentent, et donc sa fortune augmente à ce moment-là.
Beauty of me. Is that I'm very rich. I'm really successful.
Je suis riche, très riche, je fais dans l'immobilier, ça vous rappelle sans doute quelque chose, Pierre. Donald Trump n'en a pas honte, il le claironne souvent, il rappelle fréquemment sa réussite. Mais Pierre, comment est-ce qu'il est parvenu à bâtir cet empire immobilier ?
Cet empire immobilier, il l'a construit à partir de montages financiers qui reposent sur de nombreux prêts et des prêts très importants. Il emprunte beaucoup d'argent, il en garantit une grande partie sur sa fortune personnelle. On estime qu'à la fin des années 80, il y a quasiment $1 milliard qui est garanti sur sa fortune personnelle. Donc, c'est une sorte de château de cartes de prêts immobiliers qui va manquer de s'écrouler plusieurs fois d'ailleurs. Donc ça, c'est la première recette qui va lui permettre de construire cet empire. Et la deuxième, contrairement à ce que lui affirme à longueur d'interview, notamment pendant la campagne présidentielle de 2016, quand il se vante d'être un self-made man, il dit souvent « j'ai commencé avec un petit prêt immobilier $1 milliard de mon père ». En réalité, son père a eu un rôle beaucoup plus actif dans la construction de cet empire immobilier, d'abord parce qu'il lui a permis de se lancer, et pas seulement avec ce prêt, mais parce qu'il lui a ouvert les lignes de crédit des banques avec lesquelles il travaillait. Il lui a permis d'avoir des garanties, notamment pour l'hôtel Commodore, la fameuse opération de 1978. Le père de Trump apporte une garantie de $70 millions pour permettre la réalisation de l'opération. Il lui ouvre aussi l'accès au monde politique, ce qui lui permet de bénéficier de déductions fiscales pour ses différentes opérations au monde politique new-yorkais. Et puis, son père va aussi être là quand les temps seront plus durs pour la fortune de Trump. En 1980, il renfloue les comptes de Trump de $7.5 millions. Et régulièrement, on peut imaginer voilà, que la bonne fortune de Donald Trump repose quand même en grande partie sur ce qu'a construit son père avant lui.
Il va tout de même connaître des revers de fortune, d'abord dans les années 90 avec le retournement du marché de l'immobilier à New York et surtout à Atlantic City. Nicolas Rollin, correspondant des Échos à New York, s'est penché sur ce pan de l'histoire de Donald Trump. Nicolas, d'abord, on va le rappeler, Atlantic City, c'est le Las Vegas de New York ?
Oui, Pierrick, la ville est située à un peu plus de 2 heures de New York. Elle s'est développée à la fin des années 70 et au début des années 80 en faisant le pari des casinos. Elle a donc une histoire assez sulfureuse. Son premier développement date de la Prohibition. La vente d'alcool y est alors tolérée et l'on y vient de toute la côte Est. Dans les années 60, la ville plonge peu à peu dans la crise et les autorités locales misent donc sur l'ouverture du marché des casinos à la fin des années 70 pour la redynamiser. C'est alors que les investissements affluent. La ville devient l'une des capitales du divertissement dans les années 80, mais ce développement reste précaire et la crise de 2008 où la concurrence d'autres villes de la côte Est ont de nouveau fragilisé l'économie locale. Aujourd'hui, donc, Atlantic City compte 9 casinos. L'essentiel des revenus de la ville provient des taxes qu'il paie et la destination demeure tout de même assez populaire chez les classes moyennes de la côte Est.
Et on est au téléphone depuis les États-Unis à New York avec vous, Nicolas. Merci pour cette ambiance très américaine. Revenons à Atlantic City. Trump a vu grand, très grand, avec un casino, le Taj Mahal.
Oui, cet établissement devait être, selon lui, la 8e merveille du monde. Il a coûté $1 milliard. Il se proclamait alors le plus grand casino du monde. Avec 42 étages, il était de loin, en tout cas, le plus haut bâtiment d'Atlantic City. On parlait d'objectifs $1 million de chiffre d'affaires par jour. Alors Donald Trump n'en était pas à son coup d'essai. Hein. Il avait pu se faire un peu la main avec 2 autres casinos qu'il détenait dans la ville. Mais le Taj Mahal devait être clairement son joyau.
Donald Trump gave Michael Jackson a personal tour of his $1.2 billion extravaganza.
He's my friend, he's a tremendous talent and it's really my honor. It's a big day for me.
En 1990, Michael Jackson est présent aux côtés de Trump pour l'ouverture du casino. A great deal, dira Donald Trump qui accompagnera la star pour une visite privée. Mais que s'est-il passé, Nicolas, avec la 8e merveille du monde rêvée par Trump ?
Alors en fait, dès le départ, le montage financier pour finaliser l'acquisition du Taj Mahal est bancal. La société que Donald Trump a dû racheter pour ouvrir ce casino va mal. L'accord est menacé et Trump tente un premier coup de poker. Il déclare qu'il ouvrira bien le Taj Mahal, mais à la condition de récupérer la totalité des parts de la société. Toutefois, à ce moment-là, une contre-offre intervient et les prix s'envolent. Trump attaque bien en justice son rival, un mania de la télévision. Ils parviennent finalement à trouver un accord, mais l'affaire coûte beaucoup plus cher que prévu pour Trump, d'autant que le gigantisme du Taj Mahal fait complètement exploser son budget. Trump doit alors emprunter. Mais à l'époque, les banques sont encore très sceptiques sur l'activité des casinos qui est récente, légalement récente. Il doit emprunter au total 675 millions de dollars à un taux d'intérêt de 14%. Et il doit donc se tourner vers des junk bonds, des obligations pourries. La dette s'avère être un véritable fardeau pour le Taj Mahal, qui se retrouve en défaut de paiement 6 mois à peine après son ouverture. Il fait faillite en 1991. Trump parvient ensuite à convaincre ses créanciers à plusieurs reprises de gagner du temps. Mais en fait, il ne fait que repousser l'échéance.
On a parlé un temps de lien avec la mafia dans les casinos d'Atlantic City. Qu'en est-il vraiment ?
Ouais, la mafia a toujours été présente à Atlantic City, au moins depuis le développement de la ville sous la prohibition. Dans les années 80, alors que le marché des casinos vient de s'ouvrir, l'activité est encore largement contrôlée par les mafias. Les nouveaux arrivants doivent faire leurs preuves, les banques hésitent à financer ces activités. Le rôle des mafias est donc tout simplement incontournable. Il faut à minima obtenir leur autorisation pour pouvoir se lancer à Atlantic City. Alors, dans le cas de Donald Trump, il est difficile de parler de relations avérées avec la mafia. Certaines enquêtes ont montré qu'il connaissait bien certains personnages qui travaillaient pour des bandes locales. Alors, est-ce qu'il a dû leur payer des commissions pour pouvoir s'établir ? C'est assez probable, mais aucune preuve formelle n'a jamais été apportée. La corruption est d'ailleurs toujours de mise à Atlantic City. Il faut souligner que l'an dernier, le maire de la ville a dû démissionner. Il était tout simplement le cinquième à tomber en l'espace de 40 ans pour corruption.
Breaking news at 8:56, Trump Entertainment Resorts has filed for bankruptcy. The company owns the Trump Plaza, which is scheduled to close in 1 week, and the Trump Taj Mahal, which announced last week it was in money trouble.
En octobre 2016, un mois avant le scrutin présidentiel, le casino Trump Taj Mahal finit par faire faillite pour de bon après des années de pertes. Trump l'avait vendu à son ami, le milliardaire Carl Icahn, 2 ans plus tôt. Il a perdu gros dans l'histoire ?
Oui, alors c'est vrai qu'en 2014, la société de Trump donc fait de nouveau faillite avant de fermer définitivement 2 ans plus tard et d'être reprise par Hard Rock Café pour 50 millions de dollars à l'époque. Il faut se souvenir que l'affaire avait coûté au total 1,2 milliard de dollars à Trump. Mais lui, en fait, n'a quasiment rien perdu personnellement dans l'affaire. Ce sont surtout les banques qui lui avaient fait confiance, les créanciers, les investisseurs qu'il avait réussi à fédérer autour de lui qui ont perdu gros. C'est d'ailleurs un peu comme ça que fonctionne son modèle, que ça lui permet de limiter des risques. Il réussit à convaincre des investisseurs autour de la marque Trump, mais son groupe ne supporte jamais vraiment le risque seul. En revanche, quand cela fonctionne, il peut toucher des royalties assez substantielles. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a aussi limité les pertes dans ses autres investissements hasardeux. On peut citer Trump Airlines, la compagnie aérienne qui n'a duré que 2 ans avant de passer sous le contrôle de ses créditeurs. Il y a eu aussi un jeu de société à son effigie qui ne s'est vendu qu'à 800 000 exemplaires, donc bien loin des objectifs. Ou encore, on peut se souvenir des prêts immobiliers de Trump qui n'ont duré qu'un an et ont dû s'arrêter quelques mois seulement avant la crise de 2008. Pourtant, au moment de leur lancement, Trump déclarait le marché de l'immobilier va encore être solide pendant de nombreuses années.
Pour Trump, l'échec du Taj Mahal, ça reste un traumatisme ?
Oui, évidemment, il ne supporte pas que l'on puisse remettre en cause ses investissements, que l'on puisse dire qu'il a subi des échecs. À plusieurs reprises, il a ainsi menacé des journalistes de les poursuivre pour diffamation s'ils écrivaient cela. Durant la campagne de 2016, plusieurs articles sont parus affirmant que de nombreux sous-traitants n'avait pas été payé pour les travaux réalisés au Taj Mahal et avait dû tout simplement mettre la clé sous la porte à cause de ça. On a aussi remis en cause la capacité de Trump à gérer le problème de la dette publique, alors même qu'il affirmait qu'il était un expert de la dette. Des doutes qui se sont avérés justes, puisque sous son mandat, la dette publique américaine a complètement explosé.
L'art du deal, ce n'est pas forcément l'art de faire des profits, en tout cas d'en faire faire aux autres. Pierre, je reviens vers vous, on a vu que Trump a laissé des plumes malgré tout à Atlantic City, mais comment est-ce qu'il a géré l'après-crise des années 90 à New York ? Comment est-ce qu'il a rebondi ?
Alors ça a été un moment difficile pour lui parce qu'il a perdu beaucoup. Il a dû revendre le Plaza Hotel, il a dû revendre sa compagnie aérienne qui venait d'être lancée quelques années auparavant. Plusieurs chantiers sont tombés à l'eau, donc il a mis quelques années à rebondir, mais il est quand même resté dans l'immobilier, qui était vraiment le cœur de son activité. Et il rebondit très vite d'une façon étonnante, c'est-à-dire qu'il va construire de moins en moins d'immeubles, mais il va poser son nom sur de plus en plus de projets. C'est-à-dire qu'il va développer un système de licence dans lequel il prête son nom à différents promoteurs immobiliers, différents partenaires qui veulent utiliser la marque Trump, puisque la marque Trump, malgré les faillites, reste puissante et garde un attrait auprès des gens. Et donc, ce système de licence va être la base de son rebond des années 90. Il va multiplier les projets avec énormément de partenaires aux États-Unis et dans le reste du monde aussi, hein, puisqu'il va être très vite en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, etc. Donc, il profite de ce système de licence qui lui permet à la fois de minimiser les risques, puisque ce sont les autres qui construisent les immeubles, et de maximiser les recettes et les profits, puisque quoi qu'il arrive, il engrange des royalties. Donc même si le projet fait faillite au bout de quelques années, il peut en sortir avec de l'argent en poche. Et donc ce système-là, qui est ce système de licence, il va le généraliser dans l'immobilier et dans plein d'autres activités au fur et à mesure des années. Il va diversifier la marque Trump dans toutes sortes d'activités, que ce soit dans les cours en ligne, dans les différentes lignes vestimentaires, dans énormément de projets pas toujours très cohérents. Mais c'est ce qui va lui permettre de rebondir et de garder sa fortune, malgré d'autres échecs dans les années qui suivent.
Nicolas Pierre parlait à l'instant de cette marque qui fait vendre, mais est-ce que cette marque a pâli depuis son arrivée à la Maison-Blanche ?
Oui et non. L'activité de la Trump Organization, qui gère les marques Trump, est assez fidèle à la carte électorale des États-Unis. C'est-à-dire, dans les régions qui votent démocrate, son business a été considérablement touché. Les revenus de son golf new-yorkais, par exemple, situé dans le Bronx, ont chuté de 14% sur la seule année dernière. Son hôtel de Washington aussi, qui avait profité au début de son mandat des visites officielles de dignitaires étrangers et qui souhaitaient se faire bien voir de Trump, eh bien cet hôtel connaît lui aussi de grosses difficultés, au point d'avoir sollicité une aide spéciale du gouvernement pendant la crise du coronavirus. En revanche, dans les États républicains, l'activité s'est plutôt bien maintenue, voire a progressé pendant son mandat.
Merci Pierre Demoux et Nicolas Ronin, journalistes aux Échos, pour ce petit tour du propriétaire. Avant de se quitter, on va monter sur le toit de la Trump Tower. Nous sommes en 2014 et Trump se plie à un défi de l'époque, l'Ice Bucket Challenge, pour soutenir la recherche sur la maladie de Charcot, avec à ses côtés Miss USA et Miss Univers chargées de lui verser deux bassines d'eau glacée sur la tête. De nombreuses stars, dont Mike Tyson, l'avaient mis au défi de le faire pour vérifier que c'était de vrais cheveux qu'il avait sur la tête.
I guess they want to see whether or not it's my real hair, which it is. So here's what I'm going to do. Let's go, ladies. What a mess. I'm challenging President Obama, my son Donald, my son Eric.
Deux ans plus tard, il se lançait dans la course à la présidence. La preuve que le défi lancé à Barack Obama n'avait pas refroidi ses ambitions. La semaine prochaine, on parlera avec Pierre Demoux de Trump, star de la télé-réalité. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.